Au positif, Véronique Thiberghien.
Bonjour Yasmine Boudaka.
Vous avez mis la pression.
Hein. Oui, vous m'avez déjà mis la pression. Avec aujourd'hui dans notre ADN, notre autopsie des news, un site internet pour aider les joueurs pathologiques. Un univers plus vieux qu'on ne le pensait et surtout une image de cet univers à ses plus jeunes années. 97% des médecins britanniques qui prescrivent des médicaments placebo. Et puis dans notre série Langue française en fait, nous vous parlerons du mot hôpital. Dans notre dossier du jour, l'eau dans l'univers, 22 mars, journée mondiale de l'eau, l'occasion de se poser des questions à ce sujet. Y a-t-il de l'eau dans l'univers? Y a-t-il de l'eau dans le système solaire ailleurs que sur Terre? D'où vient l'eau présente sur Terre? Quel rôle a-t-elle joué dans l'apparition de la vie sur Terre? Voilà des questions qui seront soulevées par 4 chercheurs de l'Université de Liège, 3 astrophysiciens, une biologiste géologue, qui proposent le 26 mars une conférence originale intitulée « L'eau dans l'univers, un trésor essentiel à la vie » afin d'apporter des réponses à vos questions qui passionnent depuis très longtemps d'ailleurs les scientifiques. On en parle aujourd'hui dans l'émission avec notamment la biologiste qui est avec nous, Emmanuelle Javot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes biologiste et docteur en géologie à l'ULG. Et Emmanuel Juin, bonjour.
Bonjour.
Astrophysicien à l'ULG, vous êtes également le président du GAS, le groupe astronomie de SPA. On en parlera donc avec vous de cette conférence et de l'eau dans l'univers. Et puis comme je le disais, fin d'émission, fin de ma vie, c'est le labo qui m'a déjà dit que j'allais en baver, ouais, aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, vous vous vengez ou quoi? C'est pas de ma faute si vous étiez pas là la semaine passée, ouais, en même temps.
Il faut assumer ses côtés sa vie. C'est le cas aujourd'hui.
Vous l'assumez parfaitement. Allez, on va commencer d'abord par le journal L'Autopsie des News.
ADN, Véronique Thiberghien, Yasmine Boudaka.
Un site pour commencer?
Un site, oui, pour commencer, pourquoi pas. Un site et un nouvel outil en ligne gratuit pour aider les joueurs pathologiques. C'est la commission des jeux de hasard qui a lancé le site www.aideaujoueurs.be, le tout au pluriel et avec des traits d'union. On vous le met en lien sur notre page Facebook et sur notre site à nous. Aideaujoueurs.be, c'est un site internet gratuit anonyme destiné donc à accompagner les joueurs pathologiques et leur entourage. C'est un outil qui est mis en place par le secteur de l'aide qui a récemment constater une augmentation du nombre de demandeurs confrontés à des problèmes suite aux paris, aux jeux d'argent en ligne. Alors le site est assez bien fait de ce que j'en ai vu en tous les cas. Il est divisé en deux parties. La première contient des informations comme les facteurs de risque, l'influence du contexte, les dispositions légales ou encore des précisions par rapport à certaines croyances répandues dans le jeu et qui sont relativement fausses. Il y a aussi des tests qui vous permettent d'évaluer votre comportement de joueur. Donc ça j'ai fait, ça va, tout va bien pour moi. Et puis la seconde partie du site permet, elle, à toute personne qui désire changer d'attitude par rapport au jeu, eh bien de s'enregistrer anonymement et de participer à un programme qui vise donc à réduire sa dépendance. Il y a un journal de bord qui est proposé aux joueurs et vous pouvez donc introduire des statistiques de jeu comme le temps que vous consacrez au jeu, l'argent que vous dépensez, le contexte dans lequel vous jouez, etc. Et vous pouvez ensuite comparer ces facteurs-là par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc voilà, il y a une aide en ligne qui est instaurée. Pourquoi elle est particulièrement appropriée par rapport aux joueurs? Eh bien parce qu'en général, franchir le pas vers l'aide pour ces joueurs est assez problématique à cause du sentiment de honte, celui d'incompréhension ou encore en raison de l'espoir de pouvoir régler ses problèmes financiers. Comment? Bah, en misant à nouveau. Et donc c'est un cercle vicieux qui est enclenché. De là l'intérêt de cette aide en ligne. Le jeu sur internet, il faut le savoir, attire pas mal de joueurs problématiques. Pourquoi? Parce que c'est facile d'accès. On peut y jouer 24 heures sur 24. En plus, l'argent y est virtuel. Et donc le joueur ne mesure pas forcément immédiatement l'ampleur de ses pertes. Je vous rappelle donc ce site à consulter vraiment, que vous soyez joueur ou que vous fassiez partie de l'entourage d'un joueur. Aide aux joueurs au pluriel.
Je trouve que la première page donne envie de jouer.
Je suis
pas sûre que ça soit l'idée recherchée, mais je trouve que ça...
Mais peut-être que c'est pour attirer le joueur.
Bah oui, justement, mais...
Oui, bah oui.
S'il a tout de suite envie de jouer, je sais pas s'il aura envie de faire le test. Mais je vais faire le test, je vous promets. Vous, ça va donc?
Ça va.
Mais écoutez, on va essayer de voir alors si pour le reste ça va aussi. C'est une belle performance, en tout cas en matière d'image, mais aussi en matière d'analyse, qui nous a été livrée ce jeudi grâce à une équipe européenne d'astrophysiciens sous l'égide de l'Agence spatiale européenne. Ces chercheurs viennent en effet de prendre une photo qui nous ramène 13,8 milliards d'années en arrière. Elle montre en fait l'univers le plus jeune qui soit possible d'observer tel qu'il était sous ses débuts. Donc il avait environ 380 000 ans. donc tout jeune. Seulement après sa création, elle dévoile un rayonnement qui a voyagé jusqu'à nous depuis la nuit des temps. Alors la qualité de l'image de ce bébé univers prise par le satellite Planck est 10 fois plus grande que le dernier cliché disponible qui avait été pris par la NASA. C'était en 2003. Ce sont des photos assez extraordinaires que vous pouvez retrouver aujourd'hui un peu partout dans la presse, mais on les mettra aussi en ligne, bien sûr, sur la page Facebook de notre émission. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, l'univers ne ressemblait pas du tout à celui qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas le moindre caillou, il n'y avait rien. En fait, il y avait de la matière, bien sûr, mais qui était chaude, environ 3000 degrés. Elle n'était faite que de particules microscopiques, des électrons et des protons, qui, des millions d'années plus tard, vont s'assembler en atomes lourds de molécules. La masse dont on parle à cette époque-là était même totalement opaque. Pas de lumière, rien. C'était pas forcément gai.
Matière, quoi.
Voilà, c'est un peu de matière. Et l'univers était composé à 4,8% de matière ordinaire, que sont donc nos atomes, à 25%, un peu plus de 25% de matière dite noire, qui était donc invisible au télescope, et de 69,4% d'énergie noire qui l'a poussée à grossir. Donc au départ, on avait une crêpe plate, d'une platitude exceptionnelle.
Je ne suis déjà plus. Hein,
qui était en expansion, qui a fini par grossir. Donc vous avez une crêpe, vous la mettez sur votre poêle par exemple, elle n'est pas encore bien cuite, il y a de l'air dedans, ça gonfle. Mm-hmm. L'univers c'est un peu pareil. C'est comme une crêpe. Je ne dis pas trop de bêtises Emmanuel Jean, jusque-là.
Vraiment extrêmement bien expliqué.
Je lis.
C'est un cours d'astrophysique là.
Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que du coup, on a découvert que notre univers était plus vieux qu'on ne l'avait imaginé au départ, plus vieux de 80 millions d'années, ce qui fait quand même à l'échelle de l'histoire de notre univers une erreur, c'est juste une virgule quoi, c'est vraiment rien du tout.
Oui, on raffine un petit peu les nombres, mais oui. Ce qui est très impressionnant dans cette image, c'est que c'est en effet la première image que l'on peut voir de notre propre univers extrêmement vieux, parce que 300 000 ans après la naissance de l'univers, c'était le moment où enfin les photons ont pu se libérer de la matière extrêmement dense, et donc les petits grumeaux qu'on voit sur cette image de notre très vieil univers, c'est ce qui va donner naissance à l'énormité de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans notre univers, les milliards de galaxies formées de milliards d'étoiles, de milliards de planètes, etc. quoi. Donc c'est vraiment la première image de notre univers.
Vous faites des cours de rattrapage particuliers en astro, parce que moi je suis perdue là.
C'est parce que vous n'avez pas vu les images. Quand vous avez les images sous les yeux, vous comprenez assez bien comment a été fait l'univers. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'effectivement cet amas de petites poussières d'atomes et de protons a fini par former des choses aussi énormes que certaines des planètes de notre système.
Et à s'organiser grâce aux lois de la nature, aux lois de la physique, à s'organiser pour avoir tous les systèmes complexes qu'on connaît aujourd'hui.
Et puis c'est finalement assez rapide. Je lisais dans l'article également que à partir du moment où l'univers a commencé à entrer en expansion, en tout cas au moment de la photo, on a déjà des éloignements, donc les choses s'étirent, si vous voulez. C'est pour ça que ça prend de l'ampleur, ce n'est plus plat à partir d'un moment, de 60 km par seconde ou par jour, je ne sais plus.
Oui, alors la vitesse est très très grande et surtout qu'à ce moment-là, on va avoir un phénomène très particulier d'inflation de l'univers qui tout d'un coup va être boosté et sa dimension va être multipliée par des ordres de grandeur. Et en effet, tout va s'enchaîner alors rapidement, façon de voir les choses, puisque aujourd'hui ça fait pratiquement 14 milliards d'années que l'univers est né, enfin est apparu. Mais en effet, tout va s'organiser, se hiérarchiser petit à petit. Et ce qui est extraordinaire dans ce travail des astronomes, c'est que finalement, on peut montrer aujourd'hui que notre univers, on le savait depuis longtemps, mais a une histoire en fait. Et là, on vient de voir une des toutes premières étapes de cette histoire.
Une étape très importante parce qu'on les imagine aujourd'hui, on avait le Big Bang, aujourd'hui on a cette image quand même 380 000 années plus tard, ce qui est assez étonnant. Moi, ce qu'il faudra un jour qu'on m'explique, c'est comment on fait pour avoir une photo, quoi. C'est comme si vous m'envoyiez moi vers l'univers.
C'est assez simple. Le satellite Planck, qui est d'ailleurs passé par l'Université de Liège et le Centre spatial liégeois pour être testé, faut le rappeler, a fait en quelque sorte des mesures de température du fond de l'univers. Et ce qu'on observe, ce sont des micro-variations de température extrêmement petites, de l'ordre de 10-5, qui nous montrent en fait des petites fluctuations de matière au fin fond de l'univers. Donc je ne vais pas dire que c'est facile, mais cet instrument a réalisé cette photo en 2 ans, je pense à peu près. Et voilà, donc cette image qui nous arrive là est en fait une carte de la température de l'univers, en quelque sorte. Donc mais très lointain.
C'est comme si on faisait une pause pendant deux ans d'un objet. D'accord.
Exactement. Et on a accumulé cette petite lumière très très faible, cette petite fluctuation de la température du fond de ciel qui nous donne, à ces longueurs d'onde-là, donc, les grumeaux qui vont donner naissance aux galaxies, aux étoiles, etc.
Je le disais, ces photos aujourd'hui sont publiques. Ça, c'est toujours une très bonne idée, évidemment, de pouvoir rendre public ce type de découverte et de pouvoir le faire partager avec un maximum d'informations, bien sûr. Et on le mettra sur le site, sur la page Facebook de notre émission. Et si vous voulez la voir, ben, vous n'hésitez pas à entrer en contact avec nous.
On poursuit avec un chiffre assez impressionnant, Véronique. 97% des médecins généralistes anglais reconnaissent avoir prescrit un placebo à un patient et plus des trois quarts admettent y recourir au moins une fois par semaine. Ce sont les résultats d'une enquête menée auprès de 783 médecins. Une enquête menée par les universités d'Oxford et de Southampton dans le sud de l'Angleterre. Une enquête qui révèle donc que 97% des médecins avouent avoir prescrit des placebos impurs.
Pardon.
C'est-à-dire des traitements ou des examens sans effet connu sur la maladie en cause. C'est comme par exemple si vous donniez une prescription d'antibiotiques qui va lutter contre un virus alors qu'on sait que les antibiotiques ne luttent que contre les bactéries. Oui. Donc voilà, 12% des médecins sondés reconnaissent aussi avoir utilisé pour soigner leurs patients des placebos purs. Des placebos purs, donc des médicaments entre guillemets qui ne contiennent aucune molécule pharmaceutique, donc c'est du sucre ou des solutions salines. Et en fait, les docteurs pensent que le placebo peut aider les patients en provoquant les effets d'un traitement psychologique. C'est ce qu'explique l'un des auteurs de cette étude. Et l'effet du placebo sert à libérer des analgésiques naturels dans le système nerveux. Les auteurs de l'étude qui jugent aussi utile de développer la recherche sur des placebos éthiques et économiques. Alors pourquoi ça pose un problème ? Eh bien parce que pour l'autorité de régulation des médecins britanniques, eh bien le recours au placebo est seulement éthique dans des cas de tests cliniques. Donc le placebo permet de comparer les effets d'un traitement entre un patient qui le suit et un autre qui ne le prend pas. Et donc pour eux, prescrire un placebo implique de tromper le patient. Car pour maximiser son effet, un patient a besoin de croire que le faux traitement est réel. Donc voilà, il y a un débat qui est lancé parce qu'on connaît aussi le facteur psychologique d'une maladie ou d'un médicament. Et donc voilà, il y a en tout cas des choses à faire évoluer dans ce domaine.
Bah, c'est surtout que vous ne prévenez pas la personne à qui vous prescrivez un placebo. Quoi.
C'est ça qui pose problème notamment. Mais à la fois, si la personne sait qu'elle prend un placebo...
Ça ne marche plus, vous allez me dire. Bah oui, mais bon, alors pourquoi est-ce qu'on a des placebos?
Mais de là, l'intérêt, bah, pour les études notamment, et puis de de se poser la question en matière d'éthique en tous les cas, et de voir si effectivement, dans quelle mesure ces placebos ne pourraient malgré tout pas être prescrits.
Je me demande si chez nous on fait ça.
Juger, je sais pas.
Si nous avons des médecins qui font ça, s'il y a des études qui existent en la matière ou pas. Je me demande.
Que pour les enfants, c'est pas ça que les médecins font sans prescription médicale, mais on te dit voilà un petit médicament, c'est un petit bonbon à sucer, ça n'a aucun effet.
Mais c'est pas le médecin qui fait ça, c'est papa et maman. C'est maman qui mordent.
Moi, j'avais des parents médecins. Donc
vous n'êtes pas représentatif. Non, heureusement, les médecins quand même prescrivent des médicaments aux enfants quand il le faut. Mais je me demande si effectivement, pourquoi pas, ça serait peut-être une pratique chez nous aussi qui a lieu ou pas. Si vous en avez connaissance, vous n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. En tout cas, le chiffre est assez interpellant. 97% des médecins interrogés.
Ouais.
C'est assez ouf. Langue française, en fait, tout au long de cette semaine, on vous explique donc quelques mots, en tout cas l'origine de certains de ces mots grâce à ce dictionnaire de l'histoire, de la langue.
Voilà, effectivement, et on termine avec le mot hôpital, un nom masculin issu d'abord du mot hôpital sans H et puis hospital avec le H et le S, tous deux empruntés du latin hospitalis. Alors le mot désigne d'abord des établissements religieux qui accueillent des personnes démunies. Il est ensuite étendu à des établissements laïques du même genre. Et là, il est quasi synonyme d'hospice. Et c'est de ce sens que sont tirées ces expressions plus ou moins vieilles comme le grand chemin de l'hôpital ou être réduit à l'hôpital qui évoque finalement la notion de misère. Parce que c'est au XVIIe siècle seulement qu'apparaît la spécialisation médicale du lieu qui devient donc hôpital pour les malades, qu'on va distinguer progressivement des hospices. Et puis au 19e siècle, on va utiliser usuellement le mot hôpital pour désigner un établissement public qui reçoit et traite des personnes qui nécessitent des soins pendant un temps limité. On pense aux malades, aux blessés, aux femmes qui accouchent, etc. Et ça, saviez-vous que l'adjectif hospitalier-hospitalière, donc qui se dit de quelqu'un qui est accueillant, eh bien, oui, trouve l'origine également dans le mot hôpital, hospitalis, parce que je vous expliquais que ces fameuses maisons hôpitales sans H étaient des maisons d'accueil pour les démunis. Eh bien, c'est d'hospitalier et d'hospitalière qu'on qualifiait les religieux qui recueillaient les voyageurs et les plus démunis à l'époque de ces maisons, ces établissements voilà, particuliers.
D'accueil.
D'accueil.
Ça va.
Moi, ça va aller.
Ça va aller. Ne vous moquez pas, vous laissez aller la fâcher. En fin d'émission, c'est moi qui après dois assumer.
On vous retrouve pour le labo tout à l'heure, Yasmine, en dernière partie d'émission. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, lundi pour un ADN, bien sûr, et de nouvelles, des nouvelles du monde de la science et de la santé. Mais tout à l'heure d'abord, vraiment, oui, oui, on est obligé. Bon, d'accord. Allez, dans quelques instants, on parle de l'eau dans l'univers avec nos invités juste après ceci.
Au positif, le dossier.
Avec nos invités du jour, Emmanuel Javot et Emmanuel Jehin. Emmanuel Javot est biologiste et docteur en géologie à l'ULG. Emmanuel Jehin est astrophysicien à l'ULG et il est surtout président du groupe Astronomie de SPA, dont on vous parle de temps en temps dans cette émission pour les stages et les conférences qui sont données. C'est d'ailleurs une conférence qui nous donne l'occasion de vous avoir ici en studio, qui sera donnée le 26 mars. Une conférence originale intitulée « L'eau dans l'univers ». Journée mondiale de l'eau oblige. Ça nous paraissait évidemment très important de venir en parler ici en studio aujourd'hui. L'eau dans l'univers, alors on sait qu'il y a de l'eau dans l'univers. Là, on a plus ou moins déjà répondu à la première question qui sera posée. On nous en parle régulièrement, on nous dit qu'il y avait des traces d'eau sur Mars, des traces d'eau sur Vénus et autres. Encore une fois, comment le sait-on? On ne va jamais sur Vénus, Emmanuel Jehin. Alors c'est quoi qui donne cet aperçu de l'eau sur Vénus?
Alors, les astronomes ont beaucoup de ressources, ils ont des télescopes, beaucoup d'imagination, ils inventent des instruments pour découvrir les choses un petit peu partout. Un problème qu'on a eu pour découvrir l'eau dans l'univers, c'est que notre atmosphère est pleine d'eau, en fait. Et donc, quand on veut observer l'eau qui est située au-delà de notre atmosphère, on a un problème, c'est que l'eau qui est dans notre atmosphère va nous empêcher de voir l'eau qui est dans l'univers.
Ah.
Donc, en fait, de façon assez incroyable, oui, on s'est rendu compte que de l'eau, il y en avait partout dans l'univers, une fois qu'on a mis des satellites, des observatoires dans l'espace. Et alors, dans les années 90, donc il n'y a pas si longtemps que ça, grâce au satellite ISO de l'ESA, on a vu qu'il y avait de l'eau dans les galaxies, qu'il y avait de l'eau dans les nébuleuses, dans le milieu interstellaire, et bien sûr aussi de l'eau dans notre propre système solaire.
Alors, entendons-nous bien, Emmanuel Javot, l'eau sous quelle forme? Pas forcément
Absolument.
Celle que l'on connaît. Donc, on sait que l'eau, elle peut être présente sous différentes formes. Il y a l'eau liquide telle qu'on la connaît, mais il y a la vapeur aussi.
Oui, et il y a la glace, le solide.
Et la glace.
Donc il y a plusieurs états, il y a même plus d'états que ça, c'est un peu plus compliqué. Dans l'eau qui nous intéresse, en tout cas l'eau qui concerne la vie, c'est l'eau liquide. Mmh. L'eau liquide semble vraiment quelque chose d'important pour la vie telle qu'on la connaît. Et vous parliez de Mars tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars? Mais là, on fait appel justement à des outils que les géologues utilisent tous les jours. On regarde les cailloux, on a de la chance de pouvoir faire atterrir des grosses rovers sur Mars. On ne voit pas encore l'homme, mais peut-être que ça va arriver. Et ce que les rovers font, en fait, elles font le même boulot que ce que les géologues font sur la Terre. Elles regardent les cailloux. Et suivant le type de roche qu'on va trouver, et le type de structure qu'on peut voir préservée dans la roche, ben, oui, on va pouvoir dire si on était dans un lit de rivière ou si on avait de l'eau par intermittence ou non. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que ça nous donne une première clé sur l'habitabilité éventuelle de Mars. Donc le fait que la vie puisse apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il y est apparu, mais c'est une des clés.
Mmh.
Alors, est-ce que c'est une condition essentielle? On le pense, oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Ce n'est pas parce qu'on trouve de l'eau, et ça, Emmanuel pourra le dire, ce n'est pas parce qu'on trouve de l'eau, même dans l'atmosphère éventuelle d'une exoplanète, qu'il va forcément avoir de la vie sur cette planète. Et ça, c'est un sujet qui est très vaste et qui concerne beaucoup de chercheurs, et pas seulement les biologistes ou les géologues, mais les astrophysiciens et d'autres. Et on a d'ailleurs un projet fédéral qui s'intéresse à ça, qui s'appelle Planet Toppers, et qui se pose justement la question de savoir si, en plus de l'eau, d'éléments chimiques, d'énergie? Est-ce qu'il ne faut pas en plus avoir une planète qui soit géologiquement active, qui ait un champ magnétique qui protège l'atmosphère? Mars, par exemple, n'a plus une atmosphère très épaisse parce qu'elle a perdu son champ magnétique. Et du coup, on ne peut plus avoir d'eau liquide à la surface. Il n'y a plus d'atmosphère qui appuie, qui exerce une pression sur l'eau pour que l'eau puisse être liquide à la surface. Donc sur Mars, l'eau, elle passe d'office de l'état solide à l'état gazeux. Mais, et donc quand on parle de chercher des traces de vie sur Mars ou l'habitabilité de Mars, on parle plutôt du début de son histoire où là on a des traces géologiques qui montrent qu'il y a eu de l'eau liquide à un moment donné sur la surface.
Quand vous parlez de Mars par exemple, où on étudie les cailloux, est-ce que c'est aussi une manière d'étudier la coupe du sol, de voir si effectivement il y a des ravines comme il peut y en exister chez nous quand il y a une rivière qui s'est asséchée, et ou est-ce que c'est uniquement des traces alors ou des molécules d'eau dans les cailloux?
C'est les deux en fait. Donc on regarde déjà avec des orbiteurs qui tournent autour de la planète, on peut regarder la morphologie, les paysages de Mars qui sont préservés. Alors Mars est assez spécial. Les paysages anciens de Mars existent toujours. Hein, oui. Donc on peut voir des lits de rivières très anciens ou des coulées de lave très anciennes. Parce que Mars n'a pas, comme la Terre, une activité tectonique qui fait que la croûte est faite de plaques qui bougent, hein, qui forment des montagnes, des volcans et qui sont recyclées. Et donc toute l'histoire de Mars est encore présente à sa surface. Et donc on peut étudier comme ça le paysage et avoir une idée de la succession des événements dans l'histoire de Mars. Donc ça, on peut faire par orbiteur. On peut, avec les rovers, et c'est ce que Curiosity est en train de faire et a déjà montré avec succès, hein. Curiosity a trouvé différents types de structures sédimentaires ou différents types de roches qui montrent que là où elle a atterri, dans le cratère Gale, il y avait des écoulements d'eau, des espèces de rivières qui ont transporté des gros galets qui sont arrondis justement à cause de cet écoulement. Donc on peut regarder les structures sédimentaires, ça s'appelle des structures sédimentaires, des structures préservée dans la roche, mais elle est aussi équipée d'outils qui permettent de voir s'il y a des molécules d'eau attachées à l'intérieur de minéraux ou associées à des minéraux. Donc l'eau, elle peut être présente à différentes échelles.
Ce qui est intéressant d'essayer de comprendre aujourd'hui, c'est si cette eau, elle était présente ou si elle est née quelque part sur Mars, ou si elle est venue d'ailleurs, puisqu'on sait que les comètes, par exemple, véhiculent très régulièrement de la glace. D'ailleurs, on pourrait se poser la question aussi de savoir d'où vient exactement cette glace quelque part. Est-ce que c'est pas finalement des transports de planète à planète, enfin de...
Oui. Alors donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que la molécule d'eau, c'est deux hydrogènes et un oxygène, et qu'en fait c'est très abondant dans l'univers parce que l'hydrogène c'est l'atome le plus abondant dans tout l'univers et l'oxygène vient en troisième position. Donc en fait on trouve l'eau, cette molécule, un peu partout. Mais en effet c'est principalement sous forme de vapeur, de gaz ou de glace, principalement dans les nébuleuses par exemple, sur les petits grains de poussière qui vont un jour, comme ça s'est passé pour notre système solaire, s'agglomérer pour faire des plus grandes planètes. Donc en fait, l'eau qui est actuellement présente par exemple dans les comètes, parce que les comètes sont très riches en eau, elles représentent l'eau dans les comètes 80% de la masse des comètes. Oui. Donc c'est un sujet de prédilection à l'Université de Liège. Avec notre équipe, nous étudions les comètes, notamment dans cette possibilité que les comètes ont pu amener l'eau, notamment sur Terre. Il faut savoir que la Terre, lors de sa formation, à un moment, elle était extrêmement chaude. Hein, c'était une sorte de magma. Elle était sèche. Et il faut bien expliquer à un moment l'arrivée de l'eau sur notre planète. Alors, les géologues ont aussi des explications pour expliquer comment l'eau est apparue sur Terre, mais une possibilité très intéressante, c'est en effet que les comètes qui sont présentes par milliards dans notre système solaire, qui viennent des fins fonds du système solaire, qui sont congelées véritablement depuis 4,6 milliards d'années, ont, à une certaine époque, bombardé les planètes. Il suffit de regarder la Lune bourrée de cratères, c'est en partie dû à des collisions avec des comètes. Et ce qui est intéressant également, dans justement la thématique de la vie liée à l'eau, etc., c'est que les comètes également sont riches en matière organique. On a même trouvé des acides aminés qui sont un peu des briques du vivant. Donc il y a en effet dans tout ça des questions très intéressantes qui intéressent finalement tout un chacun.
Oui.
Oui, mais à propos de l'eau, je crois qu'une partie de l'eau a également été amenée par des météorites.
Oui, tout à fait. Quand on dit comète, c'est aussi vieux astéroïdes comme les météorites notamment.
Et c'est vrai qu'au sujet de l'origine de la vie, c'est une des hypothèses. Est-ce que cet apport qui était particulièrement intense au début de l'histoire de la Terre, quand la vie est sans doute apparue, entre 4 milliards 400 millions d'années et 4 milliards d'années, ou 3, même 3 milliards et demi d'années, est-ce que ce matériel qu'on appelle prébiotiques, oui. Des molécules complexes qui se forment dans l'univers, mais de façon tout à fait non biologique, de façon naturelle. Est-ce que ça a contribué à enrichir la soupe primitive qui bouillonnait sur la Terre et où la vie est apparue ? Alors, il faut quand même faire attention quand on dit bon, il y a des acides aminés dans les météorites, donc elles vont donner peut-être naissance à la vie. En fait, c'est de la chimie organique, et la chimie organique, c'est quelque chose de banal dans l'univers. Donc ça se forme partout, dans les nuages, ouais. Entre les étoiles, on en trouve dans des météorites. Et ça a pu contribuer peut-être, mais il y a aussi des réactions qui se passent sur la Terre, dans l'atmosphère primitive, ou dans des sources hydrothermales dans le fond de l'océan, qui donnent aussi ces molécules-là. Et donc peut-être qu'il y a une combinaison des trois possibilités, hein, des molécules qui viennent de l'espace, des molécules qui viennent d'une soupe primitive tiède à la surface des océans, ou de sources hydrothermales très chaudes en profondeur dans l'océan. Peut-être que ces trois sources de molécules et de chimie un peu complexes ont aidé à l'origine de la vie. Mais actuellement, on ne sait pas encore comment la vie est apparue sur la planète.
En tout cas, plus on l'étudie, plus on s'aperçoit que la recette, elle a été extrêmement complexe et qu'elle a demandé des ingrédients multiples. Parce que sinon, ça serait tellement simple qu'on pourrait se poser la question de savoir, et pourquoi pas la Lune, et pourquoi pas Vénus, et pourquoi pas Mars, et pourquoi pas Jupiter, finalement.
Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en effet, on parle de l'eau, et là, tout le monde pense évidemment à l'eau liquide, qui est celle qu'on voit tous les matins quand on ouvre le robinet. Il faut se rendre compte qu'ici, sur Terre, c'est le seul endroit de l'univers où on connaît l'eau sous sa forme liquide. Et pourquoi ? Parce que sur Terre, nous avons cette chance incroyable d'avoir une planète avec une atmosphère suffisamment épaisse, et juste assez épaisse et pas trop, pour avoir une pression qui nous permet d'avoir à la température telle que nous la connaissons sur Terre, grâce au fait qu'on n'est ni trop près du Soleil, ni trop loin, de pouvoir avoir l'eau en fait, sur Terre sous ces trois formes, liquide, solide et gazeux. Et principalement liquide qui nous intéresse particulièrement, puisque nous sommes faits à 70% d'eau, notre corps humain. Les océans ont été très importants, évidemment, ils sont toujours très importants dans la vie. La molécule d'eau est très particulière, elle a des propriétés incroyables, notamment, là, par exemple, la glace flotte sur l'eau. Ça permet notamment dans des périodes de très grand froid par exemple de pouvoir conserver des animaux vivants dans l'eau. L'eau par capillarité par exemple dans les végétaux, elle peut monter le long de la tige des végétaux pour irriguer les feuilles. C'est aussi quelque chose de tout à fait incroyable. L'eau a des propriétés, on va dire électriques aussi, qui fait qu'elle se lie très facilement avec d'autres molécules et permet toute une série de réactions. Donc cette molécule est en quelque sorte un petit cadeau de la nature pour que la vie ait pu apparaître. Et sur notre planète, c'est vrai que les conditions sont réunies pour avoir l'eau liquide. Alors aujourd'hui, il y a un challenge incroyable, je pense, pour les astrophysiciens, et à Liège, on est vraiment à la pointe également là-dedans, avec mon collègue Michael Gillon. Nous avons d'ailleurs un télescope qui s'appelle TRAPPIST, avec lequel nous cherchons des exoplanètes. Et alors, en fait, on cherche maintenant des planètes Terre, des planètes habitables, c'est-à-dire dans la zone où on peut trouver l'eau liquide. On espère qu'un jour, on arrivera à trouver une de ces planètes avec de l'eau liquide qui semble quand même l'eau liquide, même si c'est pas... je vais dire ça, qui va évidemment permettre à la vie d'apparaître, mais qui est un élément fondamental dans l'apparition de la vie et aussi dans le fait que la vie peut continuer à vivre, à persister.
Juste pour qu'on ne se dise pas que les Ligieux ont encore un esprit à la fête, hein. TRAPPIST, c'est bel et bien un acronyme.
On aime bien aussi les TRAPPIST. Ça fait tout de suite penser à l'origine du projet, évidemment, quand on va dans des conférences internationales, par exemple.
On va y revenir sur cette eau dans l'univers d'ici quelques instants.
Au positif, le dossier.
Dossier consacré à la conférence qui aura lieu le 26 mars à Verviers. On ne l'a pas encore dit, ça se passera à l'espace Duisberg. L'eau dans l'univers, un trésor essentiel à la vie. Conférence à laquelle vous participerez, Emmanuel Javot et vous-même, Emmanuel Juin, ainsi que c'est Marc Gillon.
Michael Gillon. Spécialiste des exoplanètes.
Ah, qui viendra chercher. Alors, on le rappelle parce que pour les auditeurs, exoplanète, c'est une planète qui serait habitable pour l'homme.
C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Aujourd'hui, parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie, autour d'étoiles relativement proches, les astronomes ont découvert à peu près 1000 planètes. Et on sait que notre galaxie est pleine de planètes parce que quasi une étoile sur cinq possède des planètes ou plusieurs planètes.
Et donc, la question est de savoir à quoi ressemblent ces planètes, oui, de la manière la plus précise possible.
Tout à fait. Étudier leurs caractéristiques physiques, chimiques. Et on espère toujours, évidemment, trouver une de ces planètes qui ressemblerait à la Terre, qui serait juste à la bonne distance de son étoile pour avoir l'eau liquide et peut-être, pourquoi pas, la vie. Et ce qu'on pense, c'est que d'ici peut-être une dizaine, vingtaine d'années, on aura des moyens d'investigation, des télescopes suffisamment puissants que pour aller étudier l'atmosphère de ces exoplanètes. Et là, nous avons un projet à l'Université de Liège, avec Michael Gillon, d'installer deux télescopes dans le désert d'Atacama au Chili, pour chercher après justement des planètes très proches de la Terre que nous pourrons justement, pour lesquelles nous pourrons justement étudier en détail l'atmosphère, la biosphère, pour voir s'il y a des êtres vivants qui respirent sur ces planètes.
Quel est votre désir secret à vous ? Dans l'avenir de ces découvertes, ça serait quoi ?
Bien sûr, découvrir la vie dans, oui, quelque part dans l'univers, autre part que sur Terre, je pense que ce serait une révolution scientifique totale. Et puis se dire que peut-être cette vie pourrait être intelligente, c'est parce qu'évidemment, il y a aussi le pas vers la vie intelligente qui est très très long. Mais si en plus on pouvait découvrir une autre civilisation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre et pouvoir échanger avec eux, notamment nous en tant que scientifiques, leur progrès scientifique et ce qu'ils connaissent de l'univers, on peut imaginer, enfin, ça ce serait extraordinaire. Je pense que les astrophysiciens tiennent aujourd'hui les clés pour un jour découvrir, et je pense avant 50 ans probablement, une planète habitable.
Ah oui, oh, bah ça va, on sera encore tous là.
Que là on est en train de découvrir vraiment à l'appel les exoplanètes. Ça se multiplie. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, il n'y en avait pas encore une seule qui était découverte. Avec notre télescope TRAPPIST, nous en avons co-découvert 40 sur les 1000 qui sont aujourd'hui confirmés. Vous avez énormément de jeunes chercheurs qui se lancent dans le domaine, qui est tout à fait passionnant, parce que découvrir d'autres terres, etc., c'est totalement passionnant. Ce n'est plus de la science-fiction. On fait vraiment de la science avec ça. Et donc, ça permettrait de répondre à des questions existentielles aussi sur l'humanité.
Et Emmanuel Javot, moi, on m'a toujours dit, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait de la vie sans de l'eau liquide, puisqu'on a parlé justement de cette particularité essentielle de la Terre, c'est qu'elle puisse garder l'eau liquide. Est-ce qu'on pourrait imaginer cependant que cette molécule H2O puisse permettre la vie, ou soit un élément de la vie, mais sous une autre forme que l'eau liquide ?
Que l'eau
puisse donner naissance à la vie ?
Autre que souvent liquide,
en vapeur ou quoi. Non, il faut vraiment que ça soit liquide.
L'eau liquide a vraiment des propriétés incroyables.
Oui, et unique.
C'est vrai qu'on peste parfois quand il pleut beaucoup, etc. Mais c'est vraiment l'or bleu, c'est incroyable. On ne serait pas là sans ça. Elle a des propriétés, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est un solvant, etc. C'est vraiment très, très important. On pense dans tous les cas la façon dont la vie est apparue sur Terre.
Mmh. Et la vie est basée aussi sur la chimie organique. Et la chimie organique se fait très bien dans l'eau. Ouais. Et l'association eau et carbone, une vie basée sur le carbone, c'est vraiment quelque chose de très riche. Certains scientifiques imaginent d'autres types de vie dans d'autres types de solvants, comme le méthane liquide, par exemple, ou la vie basée sur le silicium. Mais on n'obtient pas la même complexité moléculaire ni la même facilité.
Dans notre système solaire, sur les différentes planètes, on a plein d'exemples de différentes conditions. Mmh. Et ce qu'on se rend compte, c'est que malheureusement, mais de la vie, il n'y en a que sur Terre. Il y en a peut-être eu sur Mars à une époque, quand il y avait un océan sur Mars il y a 4 milliards d'années, mais cet océan n'est resté que pendant 400 millions d'années. Est-ce que ça a été assez long pour que la vie apparaisse sur Mars ? On n'en sait rien. Mmh. Il y en a peut-être sous la croûte d'un satellite de Jupiter qui s'appelle Europe, où il y aurait un océan liquide sous plusieurs kilomètres de glace. S'il y a suffisamment d'énergie, une petite chaleur là-bas, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi une vie très primitive qui soit apparue. Là, ça va être difficile d'aller le vérifier.
Oui. Et puis nouveau, pour les conditions qu'il faut pour la vie, donc on parle toujours de l'eau liquide, mais il faut aussi des nutriments. Les nutriments, c'est quoi ? Ce sont des éléments comme le calcium, le magnésium, le fer, le soufre, que la vie utilise, dont elle a besoin pour son métabolisme. Et on trouve ça dans quoi ? Dans les roches. Donc il faut un substrat rocheux ou des minéraux qui puissent être recyclés aussi par un processus géologique, une activité géologique d'une planète. Et donc, par exemple, dans le cas d'Europe, oui, il y a de l'eau liquide sous la glace, mais si cette eau liquide n'est pas en contact avec un substrat rocheux, on imagine mal comment une vie éventuelle qui se serait développée dans cette eau puisse survivre. Il faut non seulement que la vie apparaisse, mais puisse aussi...
Je vais m'expliquer pourquoi je pose cette question-là, qui peut paraître un peu bête, mais quand j'étais à l'école aussi, on m'a toujours appris, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Or, aujourd'hui, on a découvert les extrémophiles qui arrivent justement sans oxygène à pouvoir vivre. Donc, ma question était finalement, est-ce qu'on ne risque pas de découvrir un jour que...
Mais ça, il faut savoir que l'oxygène, c'est quelque chose qui est arrivé relativement tard dans l'atmosphère et les océans de notre planète. C'est un déchet du métabolisme d'un type de bactéries qu'on appelle des cyanobactéries. Et cet oxygène s'est accumulé dans l'océan, dans l'atmosphère, à partir de 2,5 milliards d'années environ. Mm-hmm. Avant ça, il y avait déjà de la vie depuis au moins 1 milliard d'années, mais qui n'utilise pas de l'oxygène pour son métabolisme. Et il existe encore toutes ces formes de vie maintenant. Donc, les organismes qui utilisent l'oxygène, c'est une petite partie de toute la diversité de la vie qui existe sur la Terre. Et de fait, vous parlez des extrémophiles, on se rend compte que la vie a des limites très très larges. On peut trouver des organismes qui survivent à des températures de 113 degrés ou qui vivent dans la glace, ou qui vivent dans des réacteurs nucléaires et qui réparent tout le temps leur ADN à cause des radiations. Dans la croûte terrestre à 3 km de profondeur, dans les sources hydrothermales à 5000 mètres de profondeur dans l'océan, dans des conditions qui ont l'air hostiles. Mais il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'eau liquide au moins à un moment pour le cycle de vie de la vie, justement. Elle peut se protéger de différentes façons, s'adapter à des conditions difficiles, même avec très peu d'eau.
Mais il faut quand même un minimum. C'est la clé de départ, quoi.
Et l'eau, on parlait de l'importance de l'eau dans la vie. L'eau, c'est une cellule, c'est pas simplement un espèce de sac avec de l'eau liquide dedans et quelques trucs qui flottent. L'eau, c'est plus qu'un solvant. Certains parlent même d'une biomolécule pour l'eau, parce que l'eau entoure des protéines, entoure l'ADN, leur permet aux protéines de garder leur structure. Et quand elles ont une structure en trois dimensions, c'est pour ça qu'elles ont une fonction et qu'elles vont faire quelque chose dans la cellule. Et donc l'eau, c'est vraiment quelque chose de très important, en fait.
Ça veut dire qu'on découvre encore aujourd'hui des particularités à l'eau.
Oui, il y a beaucoup de caractéristiques de l'eau qu'on ne connaît pas encore. Mais là, on a des chimistes qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, parce que je ne suis pas chimiste.
Qu'ils viennent, la porte est ouverte.
Jacques Reiss et Christine Bartik à l'ULB.
Ils sont spécialistes,
ils pourraient vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Il y a encore beaucoup de gens qui travaillent sur les caractéristiques de l'eau et il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas.
D'où cette définition de la zone habitable où on cherche des planètes qui sont à la bonne distance de leur étoile pour avoir l'eau liquide. Pour nous, ça semble assez évident que c'est par là qu'il faut commencer. C'est comme ça que ça s'est passé sur Terre. Et ce n'est pas un hasard que ça s'est passé comme ça sur Terre, en tous les cas, l'eau, les molécules organiques, etc. Donc on cherche, on trouve des planètes complètement inhabitables. Toutes les planètes, la plupart des planètes, 99,99% des planètes qu'on a trouvées jusqu'à présent sont inhabitables, trop proches de leur étoile ou trop loin. Il suffit de regarder dans notre système solaire. Vénus est un petit peu trop proche du Soleil. Il y a une véritable fournaise à la surface de Vénus. Il n'y a pas d'eau liquide. Mars est un tout petit peu trop loin du Soleil. L'eau s'est évaporée parce que la planète était trop petite ou est sous forme gelée maintenant à l'intérieur du sol martien. Donc, il faut vraiment que les conditions soient juste bien réunies, comme c'est le cas sur notre belle planète Terre, pour que la vie puisse apparaître, en tous les cas, sous les formes qu'on la connaît.
Emmanuel Juin, Emmanuel Javot, je propose aux auditeurs de vous retrouver ce 26 mars à Verviers, à l'espace Duisberg, dès 20h, pour cette conférence « L'eau dans l'univers, un trésor essentiel à la vie », une conférence très originale, donc donnée sur cette matière. Donc finalement, on connaît encore peu de choses et dont on a encore beaucoup à découvrir. Et c'est un angle très original que vous avez choisi. Je vous souhaite donc bon succès pour cette conférence.
Merci.
Merci à vous.
Au positif, le labo.
On devrait avoir un bruit de porte. Et on ouvre le labo et on vous retrouve, Yasmine.
Mais j'hésite souvent à venir avec une blouse blanche et des lunettes de scientifique.
Mais rien en dessous de la blouse.
Oh là là là, c'est vendredi.
Allez, on commence.
On y va, allez, on commence.
Le quiz.
Bah oui, forcément, vous n'y échappez pas chaque vendredi. Youhou. Quelques petites questions consacrées au cerveau cette semaine, puisque c'était la semaine du cerveau il y a peu. Eh bien, on va voir si vous avez bien retenu votre leçon. Oui. Combien pèse un cerveau humain en moyenne ? 1,5 kg, 2,2 kg ou 2,9 kg ?
1,5 kg.
Bravo, donc c'est une moyenne. Il faut savoir que pour les hommes, le poids du cerveau se situe autour des 1300 grammes et pour les femmes, 1200 grammes. Mais attention,
plus actif.
Ça ne veut rien dire.
Non, c'est ça, c'est pas la taille qui compte.
Allez, bravo, première bonne réponse. Alors, on complique un peu les choses. Quel mot d'origine grecque désigne l'incapacité totale ou partielle de reconnaître les lettres ou le sens des mots dans un texte écrit ? S'agit-il de l'akinestopie, de l'alexie ou de l'amnésie ?
Akiné.
Akinestopie, non ?
Mais non.
C'est avec un K, je crois, ça c'est grec.
Ben, je vous propose un X plutôt, c'est l'alexie, qui décrit un trouble pathologique de la sphère sensorielle. Ça consiste à la perte des compétences cognitives qui permettent non seulement la lecture, mais aussi la compréhension du langage écrit et de la transposition phonatoire. Mmh. 1 sur 2, 50-50. Troisième question. Le nom du scientifique français du 19e siècle, Paul Broca, est attaché à des travaux sur quoi ? S'agit-il de la mémoire, de la vision ou du langage ?
C'est la mémoire, Broca.
Pas du tout.
C'est le langage ?
C'est le langage. C'est le langage.
Merci, Mickaël.
Paul Broca est un... C'est Daniel. Hein.
Oui, Daniel.
Voilà, vous avez une petite pathologie aussi. Oui. Paul Broca, c'est un médecin français qui est né au 19e siècle, qui est spécialiste de l'anatomie du cerveau. Et donc, son nom est resté célèbre. Enfin, parce qu'il découvre une région du cerveau associée au langage qu'on appelle aujourd'hui, effectivement, R de Broca. Allez, une petite dernière. Mmh. Parmi ces trois catégories de tissus nerveux, laquelle constitue le cortex cérébral ? S'agit-il de la substance blanche, de la substance grise ou de la substance noire ? Ne faites pas des signes comme ça.
On se dit toujours qu'avec le choix multiple, ça va aller mieux, mais quand on l'entend, ça va pas beaucoup mieux. Donc,
je précise que ce quiz-ci est tiré d'un site qui s'appelle Futura Science et que je ne suis pas responsable de ces choses. Par contre, je suis responsable du choix des questions et je me suis bien amusée.
On va dire la grise.
Bravo! C'est bien la substance grise qui
c'est
contient...
C'est à cause des films d'horreur. Vous savez, dans les films d'horreur, il y a toujours un qui s'écrase et puis il y en a un qui dit « Oh, la substance grise !»
Ben voilà. En fait, elle contient surtout les corps cellulaires des cellules nerveuses, oui. La substance grise. Il y a d'autres cellules aussi non nerveuses qui forment un tissu que l'on appelle névroglie et qui apportent des éléments énergétiques aux cellules nerveuses et qui assurent aussi leur protection. Alors, la substance grise, eh bien, elle assure la fonction de centre nerveux. Donc, elle réceptionne les messages, elle analyse très finement des informations, elle élabore des réponses. Et si on la compare à la substance blanche, parce que la substance blanche existe elle aussi, eh bien elle est en quelque sorte la partie noble du système nerveux. 2 sur 3.
Pourquoi la belle grise ? Parce qu'elle est grise, vous allez me dire. Mais...
Ça, ce sera une question pour la semaine prochaine.
D'accord.
Donc c'est 2 sur 4. Est-ce que vous avez retenu ce qu'est l'alexie ?
L'alexie, c'est l'impossibilité de parler correctement.
Voilà.
C'est ce qu'on a toutes les deux.
À ressortir lors d'une conversation.
Allez, la suite.
C'est toujours pratique. La suite.
Au positif.
Quoi de neuf, Doc ?
Ah, quoi de neuf, Doc ?
Le travail, c'est la santé.
Cette chanson est ridicule.
Rien faire, c'est
la non, mais écoutez la suite.
Ça, c'est très
rien
bien.
Faire, c'est la conserver. Effectivement.
Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai.
Mais si, il n'avait pas tort, Henri Salvador, puisque on ne compte plus aujourd'hui les mots liés au travail. Il y a le stress, bien sûr, mais pas que. Un article paru sur le site jobat.be explique, entre autres, que de 1, rester assis toute la journée, eh bien, c'est très mauvais. Mmh. Celui qui exerce 10 ans un métier sédentaire, ininterrompu, double ses chances d'être atteint de certains types de cancers. Quelqu'un qui travaille à son bureau pendant l'heure de table et qu'il ne se lève donc pas de sa chaise pour se dégourdir les jambes, eh bien, court deux fois plus de risques de faire des thromboses veineuses profondes qu'un autre collègue qui va manger à l'extérieur. Et quand on sait que la thrombose n'est pas une affection rare et qu'elle frappe 100 000 patients par an en Belgique, on n'hésite donc plus à bouger, à sortir, à emprunter les escaliers. Mauvaise qualité de l'air aussi dans les bureaux, très dangereux pour la santé. L'air dans un bâtiment est 100 fois plus vicié qu'à l'extérieur et on peut en souffrir. Il s'agit du syndrome dit du sick building. Et les victimes du SBS présentent un nombre de symptômes non spécifiques, des malaises liés à la peau, aux muqueuses, aux voies respiratoires et au système nerveux central. Et puis arrêter de travailler plus de 10 heures par jour, puisque selon un constat d'enquêteur européen, les employés qui travaillent plus de 10 heures par jour ou plus courent 60% de risque en plus de souffrir de problèmes cardiovasculaires comme une attaque cardiaque ou une douleur à la poitrine. Et je ne vous parle pas de ce clavier sale il y a des nids à microbes, des nids à bactéries. Les spécialistes en microbiologie ont découvert qu'ils pouvaient contenir jusqu'à 5 fois plus de bactéries qu'une salle de bain et causer toute une série d'infections dont on ne veut même pas entendre parler. Voilà pour les petites nouvelles.
Et vous savez pourquoi je me demandais si c'était gris ? Parce qu'on va me dire, elle pose des questions ridicules.
La
substance blanche, elle n'est pas blanche, elle est rosée en réalité. Donc c'est pour ça que je me disais... Est-ce qu'on a vraiment appelé ça gris parce que c'est gris ? Il semblerait cuit. J'ai vérifié pendant que vous
parliez.
Mais oui, je voyais bien que vous n'étiez pas du tout attentive à ce que je vous expliquais.
Non, mais c'était super intéressant quand même. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, ma chère Yasmine, je vous souhaite un
Je parlerai du
bon
mariage
week-end.
Et des mauvais bienfaits du mariage. La semaine prochaine.
Oui, mais là, vous prêchez une convaincue, évidemment, hein, malgré tout. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci à l'équipe d'avoir préparé cette émission. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du magazine Au Positif dans quelques instants. C'est le forum de midi. À bientôt.
Podcast. La première.